Pas comme ça? Ouais, merci. Ouais, ça peut. Ne bougeons plus. Tu me le mets en route avec. Pour vous empêcher de dormir, vous aurez quelques petites diapos qui passeront. Pardon, excuse-moi. Je vais enlever. Je dois aller le faire dans l'autre sens. Ah, bah, c'est encore mieux. Bien. Définition et appellation, nous verrons ce qu'en dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit bien plus de choses que prédicateur, ancien et diacre. Mais on ne le sait pas toujours. Et personnellement, on ne m'a jamais enseigné tout ce que le Nouveau Testament donnait comme appellation au ministère de direction. Les fonctions des ministères de direction, on fera un parcours aussi dans le Nouveau Testament. La question de l'autorité fait problème aujourd'hui, y compris dans l'Église. Je me souviens d'une phrase d'une personne qui est là parmi nous, lors d'une soirée de formation, et qui disait « En tant qu'ancien, qu'est-ce qu'on peut encore dire aux membres ?» Mais il est peut-être le seul à se poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aux membres que les membres acceptent ou reçoivent assez facilement. Donc la question de l'autorité et de son exercice. Et enfin, la faisabilité. Il semble que malgré les 35 heures, qui sont théoriques pour beaucoup d'entre nous, évidemment, le temps de travail augmente pour ceux qui en ont, alors que de plus en plus n'en ont pas, comme vous le savez. Et que entre la famille, le travail, les loisirs, et on travaille souvent le temps des déplacements, suivant les lieux où on est, le temps et l'énergie, la disponibilité pour l'engagement semblent de plus en plus réduits. Et donc, on se posera la question de la faisabilité. Comment est-ce possible d'être encore engagé dans un ministère de direction aujourd'hui? Qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses? Il y aura quelques pistes de réflexion que je vous proposerai et qui seront donc la dernière partie de l'exposé. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, le responsable, qu'il soit prêtre, roi ou prophète, occupe une position d'intermédiaire. Dieu dirige la communauté à travers lui, à travers eux, et notamment en ce qui concerne les prophètes, leur désobéir, c'est désobéir à Dieu. Là au moins c'est simple, on a une direction autoritaire et hiérarchique. Ça ne discute pas. Enfin, discute pas, ça obéit pas pour autant, hein, mais les choses ont l'air claires au moins. Jésus, comme dans beaucoup de domaines, apporte une nouveauté radicale, parce que sa vision du fonctionnement du peuple de Dieu se démarque radicalement de l'Ancien Testament. Au lieu d'un système pyramidal, il appelle à une vie fraternelle plutôt sur le modèle du cercle. Et parmi tous les passages qu'on pourrait citer, je vous donne juste celui-ci, Matthieu 23, 8 à 12, « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre père, car un seul est votre père, le Père Céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » C'est pourquoi je dis, ce verset nous appelle à vivre le peuple de Dieu sur le mode du cercle et pas sur le mode de la pyramide. C'est clair ? Mais alors comment c'est possible de vivre cela? Eh bien, la réponse du Nouveau Testament, c'est possible par la venue du Saint-Esprit. Dans l'Église, tous les membres sont prophètes, ils ont tous le Saint-Esprit, et donc Dieu va aussi, de manière privilégiée, diriger son peuple, non plus par certaines personnes seulement, mais par la participation de tous à la réflexion et aux décisions. Et on le voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par exemple, pour nommer des responsables comme les diacres, pour décider de l'exclusion de la discipline, et donc de la dernière étape de la discipline qui malheureusement est parfois l'exclusion, c'est toute la communauté, 1 Corinthiens 5 et Matthieu 18, etc. C'est toute la communauté qui participe à la réflexion et aux décisions. Et alors, que signifient les ministères de direction dans ce contexte-là? Que deviennent-ils? Que deviennent-ils? Vous le savez, l'image la plus riche pour décrire l'Église dans le Nouveau Testament est celle du corps. Cette image souligne que l'Église avance avec la participation de tous dans des dons différents et des fonctions différentes. Et parmi ces dons et services différents, il y a des dons et des services de direction. La communauté de prophètes est une communauté organisée, ordonnée, structurée, avec des dirigeants. Ces dirigeants sont nommés très souvent dans le Nouveau Testament, de façon diverse dans les textes. Et je veux rapidement passer ça en revue. Vous avez la diapositive, voilà. Le mot qu'on connaît bien, c'est ancien. Ancien est un mot utilisé par les églises composées de chrétiens d'origine juive. Le mot ancien n'est pas propre à l'église, il est utilisé pour nommer déjà les responsables du peuple juif dans les évangiles, et notamment dans les récits de la Passion. Alors, il y a au moins 20 versets qui parlent d'anciens, et aussi dans le livre des Actes. Quand on cherche des problèmes à Pierre et Jean qui prêchent, etc., on parle des anciens du peuple. Vous avez ça dans Actes 4, versets 5, 8, 23. Enfin, il y a aussi une petite dizaine de textes où le mot ancien désigne les responsables du peuple juif, certains responsables du peuple juif. Et on le retrouve pour désigner les responsables de l'Église dans le livre des Actes, en Timothée, en Jacques, dans 1 Pierre, 2 Jean, 3 Jean. Donc c'est un mot qui est repris du contexte et de la culture juive. L'autre mot, le second mot, c'est évêque, un mot qui veut dire surveillant. Surveillant dans le sens de veiller sûr, pas dans le sens de fliquer, pour que ce soit clair. C'est un mot qui est dans l'Ancien Testament attribué à Dieu, dans la traduction grecque, en Job 20, verset 29, qui est aussi attribué à Jésus dans 1 Pierre 2, 25, et qui désigne les responsables d'église dans Actes 20, 28, Philippiens 1, verset 1, 1 Timothée 3, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Et Tite 1, verset 7, c'est un mot utilisé par les communautés constituées plutôt de chrétiens d'origine païenne, parce que le mot évêque désigne une fonction dans le monde païen, une fonction de direction. Les chrétiens ne sont pas fatigués à inventer des mots nouveaux, ils ont repris les mots de leur contexte et ils les ont utilisés pour l'Église. Un troisième mot qu'on voit rarement, c'est le mot berger. En fait, il désigne une seule fois les responsables d'église, c'est Éphésiens 4, 11. Par contre, le verbe paître désigne l'exercice de la responsabilité. Pour Pierre, en Jean 21, verset 6, paix mes brebis. En Actes 20, verset 28, quand Paul rencontre les anciens d'Éphèse, et en 1 Pierre 5, verset 2. Et cette image du berger, elle n'est pas seulement propre à l'Ancien Testament. Le berger comme leader, comme responsable, se trouve aussi dans la culture grecque. Trois mots différents et un quatrième. Ces mots désignent visiblement une fonction permanente, repérable dans un organigramme. Et il constitue le groupe permanent de responsables. Les mots anciens, berger, évêque, s'appliquent sans doute aux mêmes fonctions suivant les lieux ou les circonstances, écrit Alfred Kuhn. Et si vous voulez être convaincu de ça, vous prenez Acte 20 dans le discours de Paul aux anciens d'Éphèse, qu'il a fait venir à Milet. En Acte 20, verset 17, il est dit qu'il fait venir les anciens. Et en Acte 20, 28, il est parlé du troupeau sur lequel Dieu les a établis évêques pour qu'ils pèsent le troupeau. Donc vous avez les trois mots différents qui se retrouvent pour les mêmes personnes. Et vous prenez aussi Tite 1, verset 5, qui parle des anciens, et les mêmes sont appelés évêques au verset 7. Voilà, donc c'est pour dire une variété de termes pour désigner fonctions similaires. D'autres mots encore, conducteur, ah oui, je l'ai pas mis dans le bon ordre sur le slide, conducteur ou guide, d'un verbe qui signifie marcher en avant, et qu'on retrouve une fois dans Acte 15, verset 22, et qu'on retrouve et surtout qu'on retrouve dans Hébreux 13, versets 7, 17 et 24. Je ne lis pas les références, enfin peut-être que vous avez en tête, j'espère, certaines de ces références-là. Mais l'Épître aux Hébreux parle, quand il parle des responsables, utilise ce mot, qui est un mot très classique pour nommer les responsables, et notamment les responsables politiques dans le monde grec, alors que Hébreux n'utilise pas du tout ancien ou évêque. Il a son propre vocabulaire pour nommer les responsables, qu'on peut traduire par conducteur, guide, ou quelque chose comme ça. Ce mot est aussi utilisé dans Acte 15, pour souligner plutôt la considération dont bénéficient Barsabas et Silas, second traduit, je crois, par colonne de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est que deux autres mots, les deux derniers de la liste, font partie non pas de la liste des responsables permanents, mais des listes de dons spirituels. C'est très intéressant parce que c'est des dons dont on parle très peu. J'ai jamais eu d'enseignement là-dessus, en tout cas. La liste de dons, vous savez, on est polarisé sur le parler en langue, les prophètes, et les miracles et ces machins-là. Mais deux listes de dons ont des dons de direction. Romains 12, verset 8, un mot qui est parfois traduit par présider, et qui signifie littéralement ceux qui sont à la tête. Un mot qu'on retrouve d'ailleurs sous la plume de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 12, quand il dit « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui donnent la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » 1 Timothée 3, 4 à 5, un verset qu'on connaît bien. « Il faut que celui qui veut être évêque, qui aspire à la charge d'évêque, verset qu'a lu Denis au début, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? » C'est le même mot que vous trouvez dans la liste de dons de Romains 12, 8. Et enfin, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent soient bien jugés, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, etc. Vous voyez un mot qu'on retrouve à plusieurs reprises, à la fois pour nommer un don et à la fois pour nommer des fonctions plus permanentes. Et enfin, un dernier mot qui se trouve dans la liste de 1 Corinthiens 12, 28. Le pilote. Parce qu'au départ, c'est le type qui tient la barre sur les bateaux, vous voyez ? Qui tient le gouvernail. Eh bien, il est dans la liste des dons de 1 Corinthiens 12, au verset 28. Et le même mot, d'ailleurs, se retrouve toujours dans le Nouveau Testament, mais au sens propre, en Acte 27, verset 11, quand Paul fait un naufrage, il parle avec le pilote du bateau, ou dans Apocalypse 18, les pilotes qui voient Babylone s'effondrer, se lamentent, etc. Et ce mot du pilote était déjà utilisé dans le monde grec pour désigner l'art de gouverner et de diriger le pays. Vous voyez, ce n'est pas non plus des mots originaux, on a repris des métaphores, des images qui existaient déjà dans la culture ambiante. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà conclure de ça ? Première série de conclusions. Les ministères de direction sont voulus de Dieu pour son Église. Et tout ce qui va avec, qu'on verra après, comme autorité, etc. Dieu veut une Église ordonnée, avec des ministères de direction qui aident à faire tourner les choses. Deuxième conclusion, il y a une grande variété d'appellations des ministères de direction dans le Nouveau Testament. Cette variété est due à deux facteurs au moins. D'une part, le contexte culturel juif ou païen, mais aussi, me semble-t-il, la diversité des fonctions assumées par les responsables. la direction d'une église, c'est beaucoup de choses différentes. Et on va le voir dans le point suivant. Et enfin, une conclusion pour notre situation moderne, actuelle. Cette diversité m'amène à penser que notre propre diversité dans l'appellation de nos responsables n'est pas nécessairement un problème. Ce qui est plus important pour nous, c'est d'être ensemble au clair sur les fonctions des ministères de direction et sur la manière d'exercer l'autorité par ceux qui ont reçu un ministère de direction. C'est plutôt là que se situe l'enjeu. Alors qu'on donne tel titre ou tel titre, le Nouveau Testament donne une diversité qui pourrait ne pas rendre complètement scandaleuse notre propre diversité. Alors, les fonctions des ministères de direction. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais les ministères de direction exercent plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions.